L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Notre partenaire et invité du jour, c'est le réseau paysan et rural, le CIVAM du Finistère, qui nous propose de découvrir aujourd'hui l'agriculture dans les règles de l'arbre. Oui, l'arbre, c'est un joli slogan. C'est celui de l'Association française d'agroforesterie qui propose des formations. Nos invités en ont suivi certaines et ils viennent donc partager leur expérience. Car oui, il y a place pour l'arbre dans l'agriculture et l'élevage, pas seulement pour la beauté du paysage et la majesté du vieux chêne planté au milieu d'un pré. L'image est bucolique, mais il y a peut-être davantage derrière tout ça. Erwan Leroux est éleveur laitier à Rosnoen, pionnier dans ses pratiques depuis longtemps. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et Sophie Paté, coordinatrice du CIVAM, est là aussi. Bonjour Sophie.
Bonjour Véronique.
Alors qu'est-ce qu'on entend par agroforesterie? Déjà rien que ça, on pourrait faire toute l'émission, je pense. Donc, allons-y.
Ouais, je vais peut-être commencer. Nous, en fait, on en est venu à la question de l'agroforesterie par des questionnements de nos éleveurs sur connaître, les, en fait, de pouvoir utiliser les arbres comme fourrage, et en particulier sur les périodes estivales, en fait, où parfois le besoin de fourrage est réduit du fait des fortes chaleurs. Et certains avaient la pratique de donner des branches d'arbres et du feuillage, en fait, à leurs animaux. Et en creusant un peu plus, effectivement, on est tombé sur l'association dont tu as cité, l'Association française d'agroforesterie, qui nous a permis, en fait, de se questionner vraiment de la place de l'arbre en système d'élevage, en tout cas, principalement pour nous. Et alors, en s'appuyant sur leur site internet, l'agroforesterie, ça désigne en fait toutes les pratiques agricoles qui intègrent l'arbre dans son environnement de production. Et en particulier en s'appuyant sur les pratiques forestières. Donc c'est vraiment une combinaison entre les apports de la culture en forêt, donc de la
sylviculture,
voilà, ouais. De l'agronomie et des pratiques agricoles. Quoi.
Et c'est récent, enfin cette association par exemple, elle est récente, est-ce que c'est une résurgence d'anciennes pratiques? Est-ce que c'est vraiment des nouvelles pratiques? Enfin, c'est ça aussi la question.
Ouais, c'est des pratiques anciennes. Hein. Il y a on connaît tout ce qui est pré-verger. On connaît, alors peut-être pas chez nous, mais il y a des systèmes en France comme les articulations entre blé et noyer, les cultures de blé et cultures de noyer. Dans le sud du Portugal, il y a aussi là où ils produisent Portugal et Espagne, le cochon, le peta negra, là, la zone qui s'appelle DESA aussi, qui est un mélange entre les arbres et des prairies. Voilà, donc c'est assez ancien, mais c'est remis au goût du jour, on va dire, avec tous ces agriculteurs qui se posent la question, en fait, de maximiser, en fait, la production à partir des ressources naturelles.
Ouais, on va revenir sur, de toute façon, le côté innovant, hein, parce que c'est vrai qu'on est peut-être loin des cochons qu'on emmenait à la glandée au Moyen-Âge, on les emmenait dans la forêt pour manger les glandes. Et voilà, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et Erwan Leroux, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quel type de production, enfin comment est-ce que vous menez vos productions? Parce que c'est original déjà, je crois, donc nous redire un peu.
Ouais, alors moi je suis installé pas très loin d'ici, sur la commune de Rosnoen, avec mon épouse Laurence. On est installé depuis un petit peu moins de 20 ans. Et on élève des vaches laitières en agriculture biologique. Et toute notre surface est implantée en herbe. Alors de l'herbe qu'on a semée il y a quelques années, mais depuis 6 ans, en fait, on ne ressème plus l'herbe. On évolue petit à petit vers la prairie permanente. Et donc on y élève des vaches laitières qui ne sont nourries qu'au pâturage, les 10 mois de la saison de pâturage. Et les 2 mois d'hiver, elles sont gardées en bâtiment et elles sont nourries au foin qu'on fait donc à la belle saison. Et elles sont taries, on ne les traite pas à ce moment-là, puisque donc on a choisi nous de saisonnaliser la production.
On ne pensait pas que c'était possible, à dire vrai, nous néophytes, on ne savait pas, on croyait qu'il fallait traire tout le temps les vaches.
Ouais, on n'est pas très nombreux à saisonnaliser la production, mais tous les éleveurs de vaches laitières, en fait, donnent 2 mois de repos à peu près avant la naissance suivante. Mais le fait que toutes les vaches ne soient pas au même stade physiologique, en fait, fait qu'eux, ils traient des vaches tous les jours, alors que nous, on a synchronisé ou organisé le fonctionnement pour que toutes nos vaches soient au même stade physiologique.
Combien de vaches d'ailleurs?
Alors on traite à peu près 75 vaches.
Ah oui, c'est, en plus c'est pas un petit troupeau, c'est quand même...
Alors c'est pas un petit troupeau parce qu'on a aussi nous choisi de ne pas trop les solliciter, on ne les traite qu'une fois par jour. Donc je le disais, elles ne se nourrissent que d'herbes pâturées pendant la lactation, ce qui fait qu'elles ont une production tout à fait modeste par rapport à la moyenne. Donc le nombre de vaches est plutôt supérieur à la moyenne, mais la production laitière est inférieure. Donc voilà.
Et vous avez intégré l'arbre dans votre, enfin l'agroforesterie en tout cas, dans votre système. Alors comment? Racontez-nous.
Alors la façon dont la question de la place de l'arbre s'est posée dans notre cheminement vient du fait que donc sur les premières années d'installation, en fait, on a fait évoluer la ferme qui fonctionnait dans un système assez classique vers le système que je viens de décrire, donc très autonome, basé sur le pâturage. Et en faisant ça, on s'est aussi rendu compte qu'il nous manquait des arbres dans notre petit écosystème ou dans notre ferme, pour différentes raisons. Il manquait des abris. On est sur deux coteaux relativement exposés au vent. Et quand on veut faire pâturer des vaches 10 mois de l'année et qu'on est soucieux de leur bien-être, eh ben on se rend compte qu'il manque du linéaire bocager pour les abriter.
Elles n'aiment pas trop la chaleur en plus, je crois, enfin, même s'il ne fait pas trop chaud chez nous, mais bon, ça va peut-être venir.
Ouais, pour l'instant, les plus gros stress que moi j'observe, c'est quand on a au mois de mars, au mois d'avril, au mois d'octobre, novembre, des journées relativement froides, pluvieuses et très venteuses. Elles ont plus de mal à supporter ça. On a peu de pics de chaleur avec sans une petite brise qui rafraîchit. Mais ceci dit, les vaches sont des animaux qui ont un confort thermique qui se situe à une température relativement basse. Donc ça existe quand même quelques journées. Mais c'est plus pour les abriter du vent et de la pluie froide. Et aussi abriter les prairies. Parce que sur les mêmes périodes d'intersaison, là, quand il fait beau, avec un flux de nord-est, un vent très sec et très froid, ça stresse énormément les prairies. Et puis quand on a des conditions anticycloniques en été, c'est pareil, on a la brise thermique qui se lève tous les après-midi et qui dessèche les parcelles, plus par effet de vent et de déshydratation par le vent que par manque d'humidité de l'air.
Parce que les prairies, c'est l'herbe, mais pas seulement. Enfin, vous avez d'autres... Qu'est-ce que vous avez comme végétaux dans vos prairies, par exemple, qui nourrissent les vaches?
Alors nous, nos prairies, elles contiennent en moyenne entre 10 et 15 espèces différentes, à la fois des graminées, des légumineuses et des dicotylédones différentes. Et justement, là aussi, l'arbre trouve une place au niveau de l'alimentation des vaches. Les vaches ont une aptitude à aller chercher l'aliment dont elles ont besoin pour équilibrer leur alimentation. Et donc, nous, on s'organise de telle façon à ce que chaque jour, elles aient de l'herbe fraîche à pâturer, mais qu'en même temps, elles puissent aussi aller picorer dans les arbres, dans les flancs de talus, des plantes dont elles ont besoin et qui sont nécessaires à leur bonne santé.
Comment vous avez fait concrètement? Alors, vous avez créé des talus, vous avez mis quelle sorte d'arbre, etc. Enfin, c'était sur quelle surface aussi?
Alors ça, c'est un processus qui est relativement long. Hein. Donc tous les ans, depuis plusieurs années, on implante quelques centaines de mètres de linéaire de haies. Avec des essences plutôt locales, même très locales, on s'approvisionne avec un jeune pépiniériste forestier qui est spécialisé dans la génétique du massif armoricain. Il connaît très bien l'armorique et tous les endroits, les bouts de forêt, les bouts de talus qui contiennent ou qui sont peuplés d'arbres de qualité, bien adaptés à notre sol, à notre climat, à notre terroir.
Il est à quel endroit?
Il est à Teillac, qui est une petite commune près de la Roche-Bernard. Et donc, on s'approvisionne là-bas dans des essences très variées, hein, d'arbres plutôt de grande taille, de petite taille. On essaye de tenir compte du lieu d'implantation. Est-ce que c'est exposé au vent? Est-ce que c'est des sols qui vont sécher en été? Est-ce que c'est des sols qui vont se gorger d'eau en hiver? Est-ce que tout ça, c'est compatible avec les essences qu'on implante ou pas?
Et c'est des haies à talus forcément ou ça peut être des haies sans talus? Enfin, ça...
Non, on a créé des talus boisés, on a créé des talus à plat. Et là, la réflexion dans laquelle on est aujourd'hui est d'implanter des arbres qu'on pourrait utiliser aussi comme ressource fourragère en cas de période plus sèche qui limiterait la pousse de l'herbe. et d'implanter aussi des fruitiers. En fait, on a une grosse réflexion sur les systèmes alimentaires qui vont pouvoir exister demain dans un contexte où le réchauffement climatique va devenir une préoccupation de plus en plus forte.
Et système donc, alimentaire humain, alors pas seulement animaux, du coup.
Oui, je parle de système alimentaire humain, système sociétal, en fait. Mm-hmm. Dans un contexte où il va falloir mettre toutes les actions qu'on peut pour stopper la dérégulation du climat, donc gérer le cycle du carbone, dans un contexte où on va chercher à limiter l'effondrement de la biodiversité, à rester productif pour produire une nourriture accessible à un maximum de monde, à gérer la fertilité des sols, à gérer la qualité de l'eau. Y a énormément de choses, à mon avis, qui vont bouger. Et je pense que la dichotomie qu'on fait entre l'alimentation d'origine végétale et d'origine animale n'est pas la bonne. Je pense qu'en fait, la distinction qu'il faut faire en termes d'efficacité de ressources, c'est plus sur la distinction entre l'alimentation qui provient de systèmes agronomiques pérennes, c'est-à-dire basés sur des fonctionnements agronomiques.
Des complémentarités, en fait, c'est ça.
Non, des systèmes qui n'ont pas besoin de labour, de semis, de récolte annuelle, mais qui se maintiennent dans le temps.
C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, c'est ça ? Non,
c'est encore
d'accord,
un petit peu différent.
Très bien.
Là, c'est vraiment basé sur des plantes qui vivent plusieurs années, par
d'accord.
opposition à un système basé sur des plantes qui ne vivent que quelques mois ou maximum une année. Et les plantes annuelles ou à cycle court nécessitent beaucoup d'interventions parce qu'il faut labourer, il faut semer. Souvent, c'est de la génétique qu'on achète qui n'est pas forcément super bien adapté au sol, au climat, donc il faut entretenir avec des engrais, des pesticides, etc. Et c'est ces cycles-là qui consomment énormément de ressources. Et par opposition, les systèmes qui sont basés sur des cultures, des plantes, qui vivent plusieurs années, sont beaucoup moins gourmands en ressources. Donc c'est le cas de l'élevage au pâturage, sur des prairies de très longue durée, mais c'est aussi le cas des vergers. Et du coup, je pense que dans des climats comme le nôtre, on a intérêt à réfléchir à la complémentarité de ces deux productions, qui sont deux productions pérennes.
Donc vous devenez cultivateur petit à petit, vergériculteur, je ne sais pas comment on dit, arboriculteur.
Arboriculteur, alors on n'y est pas, mais on est en réflexion, parce que c'est une réflexion qui demande du temps. Il faut savoir où on implante ces linéaires-là, ces arbres fruitiers, comment on va les récolter, comment on va les conduire, etc. Donc ça demande un petit peu de temps. Et contrairement à une culture qu'on met en place pour 4-5 mois, qu'on récolte, et puis si on se rend compte que finalement ça ne convient pas trop, on peut ne pas la reconduire. Implanter un arbre, on n'implante pas un arbre pour l'enlever 2 ans après ou le replanter à un autre endroit ou le remplacer 5 ans après, quoi. Donc ça nécessite plus de réflexion.
Et en attendant les arbres que vous avez plantés, c'est peut-être arbres et arbustes, j'imagine. Est-ce que par exemple vous avez planté de l'ajonc ? Parce qu'avant l'ajonc c'était un fourrage. Qu'est-ce qu'elles mangent les vaches ?
Alors on n'a pas planté d'ajonc, mais il vient spontanément dans les linéaires qu'on a implantés ou qu'on a laissés. Il y a aussi des linéaires où on n'a rien implanté, on a juste laissé la végétation spontanée s'installer. Et donc là, on a assez souvent de l'ajonc, du genêt, dans lequel vont pousser des arbres pionniers comme le saule, le bouleau, le noisetier. Voilà.
Et les vaches, elles mangent quoi de préférence ? Qu'est-ce qu'elles préfèrent ?
Un petit peu de tout.
Ah ouais.
En fait, on a fait des études, ce n'est pas nous qui les avons faites en l'occurrence, il existe des études qui ont montré que des animaux, des ruminants qui sont élevés de cette façon-là, s'ils ont le choix, ils vont consommer à peu près 97% de ce qu'ils consomment, c'est ce qu'ils pâturent au sol. Donc, je disais, un mélange de 10-15 espèces à peu près différentes. Et s'ils le peuvent, ils vont compléter les 3% qui manquent en allant picorer des bourgeons, des bouts d'écorce, des feuilles dans 50 à 60 espèces différentes qu'ils vont trouver plutôt chez les arbres et arbustes. Donc, en fait, ils vont consommer un petit peu de tout. Alors, pas forcément aux mêmes périodes de l'année, pas forcément les mêmes parties de la plante. Des fois, ça va être des feuilles, des bourgeons, de l'écorce. Mais voilà, elles sont capables de s'auto-médicamenter et de s'adapter par rapport à leurs besoins.
Encore faut-il le savoir. Sophie Pathé, est-ce qu'il y a d'autres membres du CIVAM qui pratiquent l'agroforesterie ou qui s'y intéressent ? Pourquoi suivre aussi des formations sur ce terrain-là ?
Eh bien, parce que Un peu comme le disait Erwan, en fait, c'est des connaissances et des savoir-faire qui ont été perdus. En fait, avec la spécialisation des systèmes de production, l'agriculture, c'est spécialisé dans effectivement et les formations et les connaissances se sont restreintes en fait à la production de maïs, de céréales, de prairies aussi. Et du coup, il y a quand même besoin de revenir à ces fondamentaux en fait. Ça fait partie des principes. De ce que disait aussi Erwan, de revenir à utiliser en fait les ressources qu'il y a sur place, sans aller chercher les intrants à droite et à gauche, à pénaliser d'autres territoires aussi dans le monde en fait. C'est pour ça qu'on s'est retourné vers cette question de l'arbre en fait, qui est une plante en fait qu'on peut cultiver comme de l'herbe. Hein. Donc c'est pour ça que là, cette association française d'agroforesterie, avec tous les intervenants qu'ils ont, nous permettent de reprendre un peu la main sur cette question.
Et leurs intervenants, c'est des agents forestiers ? C'est quel genre d'intervenants ?
Le premier intervenant, il était ingénieur agronome et s'est intéressé à la question de l'arbre. Donc on avait donc la... Non, c'était il y a 10 jours bientôt. Ouais, c'est ça. Il y a Dominique Mention qui s'est spécialisé sur les trognes.
Ah, qu'est-ce que c'est les trognes ?
Je vais peut-être laisser Erwan, parce que c'est Erwan qui était présent à la formation. Je botte un peu en touche, mais...
Alors, les trognes, ça désigne un arbre qui est conduit d'une façon un petit peu spécifique et qui est assez caractéristique de l'arbre paysan par opposition à l'arbre forestier.
Oui, il n'est pas tout droit vers le ciel,
voilà,
c'est ça.
L'arbre forestier, on essaye de le laisser venir très grand et on le coupe quand il vient à maturité. Et on valorise essentiellement son tronc pour bois d'œuvre. Alors que l'arbre paysan est un arbre qui existe depuis que Homo sapiens s'est sédentarisé, donc depuis à peu près 8000 ans, et qui a été utilisé dans toutes les fermes de nos contrées pour produire à la fois du fourrage, pour produire du bois qui servait à faire des manches, des outils, des petites réparations, qui servait aussi à produire des fruits, en fait, qui était un peu le couteau suisse de la structure parcellaire du paysan, et qui donc était conduite en élaguant les branches de façon relativement fréquente et de façon cyclique, sans toucher le tronc. Donc c'est aussi ce qu'on appelle les arbres têtards, qui se caractérise donc par un tronc avec...
Un tronc très massif, c'est ça ?
Surtout au bout de plusieurs années ou plusieurs décennies, voire siècles, on a un arbre qui donne l'impression d'avoir une tête un peu difforme. et en fait, c'est lié à la cicatrisation consécutive aux différents ébranchements qui se déroulent. Donc, suivant ce qu'on veut en faire, tous les 3-4 ans, voire tous les 20-25 ans maximum.
Mais vous pourriez valoriser vos arbres là aussi, par exemple pour du bois de chauffage ou enfin pour d'autres valorisations que uniquement nourrir le bétail, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On l'utilise déjà comme régulateur climatique avec son effet brise-vent. On l'utilise comme ressource fourragère, mais je pense qu'on peut mieux le faire et mieux le valoriser de ce point de vue-là. On se chauffe nous aussi avec le bois de la ferme, donc on l'utilise aussi comme énergie. On se pose la question de l'utiliser aussi comme source de production de fruits. Mais effectivement, on retrouve cette idée d'utiliser l'arbre pour plusieurs utilisations différentes.
Et il y a des recherches qui sont menées, alors, puisque là, il y avait un ingénieur agronome qui s'est intéressé à l'arbre. Est-ce que ça devient un champ de recherche un peu plus large qu'avant ou...
comme je disais au début, en fait, comme ça combine autant des données, des connaissances forestières, de la sylviculture, en fait, pour aussi les réadapter en fait, au système agricole. Donc, des questions agronomiques, tout ce qui est lié au stockage du carbone dans les racines, toute la régulation aussi qu'il y a sur les sols et l'eau. Il y a des études qui sont conduites effectivement là-dessus, ouais.
Et tout à l'heure, on parlait, l'histoire du noyer et du blé, c'est quoi, par exemple, cette complémentarité ? C'est pour prendre un autre exemple que l'élevage laitier
C'est en grande culture. Alors, je n'ai pas la, est-ce que j'ai peur de donner une zone, c'est plutôt en Dordogne.
Aquitaine, je dirais.
Plutôt Aquitaine, ouais, c'est ça, la Dordogne, j'aurais dit, un peu située à ce. Donc, c'est des champs de culture de blé où sont implantés au milieu de la parcelle des noyers, en fait. Et donc, ils cultivent le blé qu'ils récoltent chaque année. Et le temps que l'arbre est poussé, en fait, et commence à donner ses premiers fruits. C'est vraiment le mixage entre la récolte de blé et la récolte de noix qui interviennent sur des stades différents.
D'accord, c'est une double récolte. C'est pas spécialement parce que le noyer apporterait quelque chose au blé ou si, peut-être.
La formation qu'on avait vue, c'est ça maximise en fait la captation en fait du soleil en fait, la photosynthèse en fait, d'avoir des éléments hauts et des éléments bas, ça maximise en fait la capacité à produire en fait. Et c'est d'où aussi la question des pré-vergers, c'est un peu le même système quoi.
Et est-ce qu'il y a à l'inverse des gens qui pratiquent le verger, enfin qui sont arboriculteurs, qui cultivent des fruits et qui viennent à, je sais pas, de l'élevage parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une complémentarité intéressante? Ça existe, ça? Vous en connaissez?
Oui, ça existe. Des gens qui ont, par exemple, des troupeaux de moutons, qui intègrent de la volaille pour gérer notamment des cycles de parasitisme des arbres fruitiers. Oui, ça existe et ça se développe aussi chez les arboriculteurs.
On peut avoir des oies aussi qui consomment l'herbe aussi au pied des arbres, mais comme.
Donc c'est, on peut dire que c'est une agriculture d'avenir là, vraiment. J'imagine que ça va se développer, l'agroforesterie.
Mais en fait, l'agroforesterie, c'est une approche qui consiste à apporter plus de diversité pour plus de résilience des systèmes agronomiques. Ça permet aussi de mieux valoriser l'espace d'un point de vue photosynthèse. Si on prend une image, par exemple, si je prends une feuille A4 et que je la pose à plat, et que cette feuille-là est en fait un panneau solaire, voilà, mon panneau solaire fait la surface de ma feuille A4. Maintenant, si sur cette feuille A4, je prends une autre feuille A4, mais que j'ai pliée en deux pour essayer d'en faire un petit tunnel triangulaire, et que je la pose dessus. En fait, je mobilise très peu de la surface de ma feuille d'origine, mais je rajoute de la surface oblique. Et en fait, ce qui fait que sur une même surface au sol, j'augmente la surface de captation du soleil. Et donc, ça permet d'augmenter le niveau de photosynthèse. En augmentant le niveau de photosynthèse, en fait, on augmente la quantité de carbone absorbé par la photosynthèse. Donc, on contribue à la régularisation du climat.
Et vous, Erwan Leroux, dans votre exploitation, depuis que vous avez commencé à planter tous ces arbres, là, vous avez constaté une biodiversité, un retour de biodiversité, peut-être. Qu'est-ce que vous avez constaté à ce niveau-là?
Alors, c'est sans doute un petit peu tôt pour le dire, parce que les arbres mettent un petit peu de temps pour s'implanter. Notamment, nous, on a commencé par en mettre sur les zones les plus exposées au vent, parce que c'est là que c'était le plus urgent de créer cette protection climatique. Mais en étant plus exposé au vent, c'est là aussi que les arbres mettent plus de temps à pousser. Donc, il faudra attendre encore un petit peu de temps.
Et qu'est-ce que vous pouvez espérer comme espèce animale? Qu'est-ce que vous attendez?
Alors, au-delà de l'augmentation du nombre d'espèces, je pense que c'est le fait de l'augmentation du nombre d'individus des espèces déjà existantes. On travaille assez régulièrement avec Bretagne Vivante, qui est venue plusieurs fois faire des relevés botaniques ou ornithologiques. Et ce qui les a surpris, c'est plus la densité, donc le nombre d'individus par espèce, plus que la diversité, en fait. Voilà, on n'accueille pas d'espèces exotiques spécifiquement sur notre ferme. Par contre, on a un nombre d'individus dans les différentes espèces qui est plus important.
Et là, vous vous donnez encore combien de temps, en fait, dans votre démarche d'agroforesterie? C'est difficile de dire qu'elle sera terminée un jour, mais...
Oui, c'est ça. C'est une démarche sans fin, en fait. La question, c'est comment je peux améliorer le fonctionnement de ma ferme pour qu'il soit plus adapté au contexte climatique, aux attentes sociétales, à mes contraintes, moi, en tant que paysan, de ressources en main-d'œuvre, de contexte économique, etc.
Et Sophie, il y a d'autres membres du réseau CIVAM alors qui manifestent un intérêt, qui ne s'y sont pas encore mis, mais qui s'intéressent à l'agroforesterie.
Oui, on a été surpris. Hein, la dernière formation sur les troncs où il y avait 25 personnes. C'est vraiment une question qui est très actuelle. Et puis qu'on va continuer à creuser. Là, on a une prochaine journée encore mi-mars sur vraiment la question de l'arbre fourrager. Comment on peut produire vraiment du fourrage avec les arbres, donc là avec aussi un paysan qui va intervenir.
Donc c'est plutôt des éleveurs qui suivent là ce...
Voilà, ouais, c'est vraiment cette entrée qu'on a pris de la place de l'arbre en élevage. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais ça, on a bon espoir qu'il y ait des choses intéressantes qui se créent. Hein.
Bon, et ben on fera d'autres émissions alors avec d'autres expérimentateurs de l'agroforesterie. Merci beaucoup.
Merci
à
beaucoup.
Tous les deux.
Merci aussi.
Et on retrouvera donc le CIVAM dans un mois, très exactement. Ce sera le 11 mars. À bientôt.